écoute le message du jour qui est apporté maintenant par Raymond Pierre.
Voilà, bonjour à tous. Vous allez bien ce matin? Pas trop fatigué avec le froid ambiant? Avec ceux qui ont été au mariage hier soir? Ça va? Ce matin, on va parler du vrai sens de Noël. On est dans la période de l'Avent et des dizaines de milliers de personnes ont rejoint la ville de Strasbourg ou la rejoignent chaque jour après jour pour voir le magnifique marché de Noël comme il y a aussi à Colmar. Un beau marché de Noël. On a des gens qui arpentent nos rues et qui viennent vivre la féerie, on pourrait dire, de Noël. Mais ce matin, ce qu'on veut regarder, nous, c'est quel est le vrai sens, quel est le véritable message qui se trouve dans cette période de Noël, dans cette période de fête. Noël, c'est une fête qui dure à peu près un mois, qui célèbre la naissance d'un enfant dans le Proche-Orient ancien et qui détermine encore aujourd'hui nos années et qui détermine même votre anniversaire à chacun. Vous êtes tous nés telle date après Jésus-Christ. Enfin, pas avant, il me semble, mais après Jésus-Christ. Un enfant qui est né au Proche-Orient et qui détermine encore notre calendrier aujourd'hui, qui détermine comment on fixe les temps aujourd'hui. Alors pour certains, cette période, ça fait écho à de merveilleux souvenirs, des descentes en luge, des batailles de boules de neige, le chocolat chaud. Ça fait penser, alors que j'étais avec mes parents à préparer le sapin, à accrocher les boules, préparer ce temps, aussi les regards des enfants qui pétillent quand ils commencent à déballer les cadeaux. Toutes ces choses qui font écho et qui nous rappellent à nos bons vieux souvenirs et qu'on aimerait tant revivre. Et par contre, pour d'autres personnes, ça peut être un temps plus difficile. Une période qui peut plonger pour les uns et les autres dans des temps d'angoisse, dans des temps de pression, aussi bien financière que parfois émotionnelle. Un sentiment de solitude qui peut conduire au désespoir. L'angoisse de revivre une soirée de Noël où notre famille se déchire. La pression de la course effrénée au cadeau, avec la culpabilité de dire « mince, j'ai pas pu dépenser ce que j'aurais voulu et puis je sais pas si je vais réussir à joindre les deux bouts à la fin du mois ». Peut-être pour d'autres, ça vous renvoie au fait que vous êtes seul et de voir les gens heureux, de voir les couples qui s'embrassent sur le marché de Noël et qui ils ont le regard pétillant, ça vous renvoie à votre solitude et dire « moi, il n'y a personne qui m'attend à la maison ». Deux échos complètement différents qu'on peut vivre pendant cette période. Mais ce matin, on va voir qu'il y a une bonne nouvelle au message de Noël. On va voir que le message de Noël, c'est un message d'espoir, qu'il est porteur d'amour, que ce message est porteur de joie, que ce message est porteur de salut, que ce message est porteur de paix. On va voir que Noël, c'est la meilleure nouvelle que nous puissions recevoir. On va commencer la lecture dans l'évangile de Luc, un passage que vous connaissez forcément pas. En tout cas, vous avez déjà beaucoup lu. Luc 2, versets 8 à 14. On sait que Jésus est né, voilà le contexte. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils dressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Le premier point ce matin, dans cette véritable essence de ce qu'est Noël, c'est que Noël, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Noël, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Notre texte commence alors par cette visite d'ange qui viennent à la rencontre de simples bergers qui étaient en train de faire paître leurs troupeaux. Et le texte précise que la gloire de Dieu les entourait, que la gloire de Dieu les environnait. Certainement que ces derniers étaient en train de dormir lorsque tout d'un coup ils ont été réveillés par cette lumière éclatante, cette manifestation de la gloire de Dieu. Et je pense qu'ils ont commencé à avoir peur. Vous savez, un petit peu comme dans les films de science-fiction à l'époque où il y a la soucoupe volante qui arrive en pleine nuit, là, puis il y a une lumière qui se passe. Qu'est-ce qui arrive? Et le texte nous dit qu'ils commencent à prendre peur. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot gloire en grec, c'est le mot doxa, qui nous parle de splendeur et qui nous parle d'éclat. La Bible mentionne à plusieurs reprises que lorsque des hommes ont vu cette gloire, lorsqu'ils ont vu cette lumière éclatante de Dieu, ils ont pris peur et se sont sentis indignes dans la présence de cette gloire. Le prophète Ésaïe a dit « Malheur à moi, je suis perdu » lorsqu'il a eu cette vision de celui qui régnait et qui l'appelait à devenir son porte-parole. L'apôtre Jean, lorsqu'il a eu la vision de la gloire de Dieu dans l'Apocalypse, on apprend qu'il tombe à ses pieds comme mort. Mais Dieu l'invite à ne pas craindre. Vous savez que dans la Bible, il y a 365 mentions de ce fait de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Ça veut dire une mention par jour. Chaque jour, Dieu nous dit « n'aie pas peur ». Chaque jour, Dieu nous dit « ne crains pas ». L'ange s'est adressé aux bergers en leur disant « n'ayez pas peur ». Ce qui est frappant dans ce passage, c'est que Dieu ne se révèle pas aux puissants du monde de l'époque. Mais il vient rencontrer de simples bergers. Le rôle du berger était considéré avec dédain et dérision dans le contexte du 1er siècle. Les bergers étaient méprisés au même titre que les collecteurs d'impôts. C'est aussi ce qui est impressionnant, c'est que le roi des rois est né dans une crèche. Alors nous, on a toujours cette belle image de la petite crèche et puis l'odeur du vin chaud et toutes ces choses. Mais je ne sais pas, moi je suis ardennais. Je sais ce que c'est la ferme. Et l'odeur de la ferme, ça ne sent pas le vin chaud. Quand on est dans une ferme qui a les vaches, qui a la bouse, qui a tout ça, c'est dans ce contexte que le roi, que le créateur du ciel et de la terre est venu laisser ses l'homme. Avec les mauvaises odeurs, avec les animaux. Le message de Noël, c'est Dieu qui vient à la rencontre. On l'a vu, des méprisés avec les bergers. C'est Dieu qui vient à la rencontre des faibles. C'est Dieu qui vient à la rencontre des délaissés. Je ne sais pas quel sentiment nous anime ce matin ou dans cette période de Noël. Est-ce que je me sens délaissé? Est-ce que je me sens seul? Est-ce que je me sens méprisé? Est-ce que je crois que personne ne me porte de l'intérêt? Dieu porte de l'intérêt pour chacun d'entre nous. Dieu ne fait exception de personne. Dieu porte de l'intérêt à chacun d'entre nous. Si tu te sens seul, si tu te sens délaissé, Dieu te dit, je suis là. Dieu te dit, je suis avec toi. L'évangile de Matthieu relatant le récit de Noël et parlant de l'enfant qui venait de naître, cite la parole du prophète Ésaïe, qui annonçait plusieurs centaines d'années auparavant que l'enfant se nommerait Emmanuel. Emmanuel, ça signifie Dieu avec nous. Est-ce qu'on croit ce matin que Dieu est avec nous? Est-ce qu'on croit, que même au-delà de mes difficultés, de ma solitude, je ne suis pas seul? Est-ce que je crois que Dieu me porte de l'intérêt? Est-ce que je crois que j'ai de la valeur et que j'ai du prix à ses yeux? Dieu avec nous. L'ange, en parlant du bébé qui est arrivé, le nomme aussi Christ, le nomme Seigneur. Le mot Seigneur, c'est le mot grec kurios, qui est l'équivalent du mot hébreu Adonai. Adonai, c'est l'éternel Dieu dans l'Ancien Testament. C'est celui qui règne. Dieu est avec nous. Dieu se manifeste pour nous. Dieu est pour nous ce matin. Amen. Peut-être qu'on se sent indigne ce matin. Peut-être que la seule image que nous avons sur nous-mêmes, c'est du mépris et de la honte. Mais je crois réellement que Dieu veut nous rencontrer chacun pour notre part. Je crois que Dieu veut venir dans le secret de nos cœurs encore ce matin. Dieu est avec toi. Et sa parole pour toi ce matin, c'est « N'aie pas peur, j'ai une bonne nouvelle pour toi ». Quelle est cette bonne nouvelle? C'est notre deuxième point. Noël, c'est le cadeau de Dieu qui se livre qui sauve pour chacun d'entre nous. C'est le cadeau de Dieu à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est mis un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Pendant la période de Noël, on a l'habitude de s'échanger des cadeaux. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de pourquoi ? Pourquoi on s'offre des cadeaux à Noël ? À Noël, la tradition de donner un cadeau à Noël a commencé parce que Dieu a donné le premier et le plus beau cadeau lors du premier Noël, le cadeau de son fils. Ça, c'est incroyable que pour un anniversaire, ce soit celui qui est censé être fêté qui offre un cadeau aux invités. Normalement, c'est celui qui fait son anniversaire, on lui ramène des cadeaux. Mais là, celui où on fête sa naissance offre un cadeau à l'humanité. Dieu offre un cadeau à l'humanité. Noël, c'est Dieu qui s'offre à chacun d'entre nous. Ça nous parle de l'amour que Dieu porte pour chacun d'entre nous. Vous connaissez tous ce verset de la Bible de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu fait un don aux hommes. Vous savez, le principe d'un don, d'un cadeau, c'est que ce n'est pas mérité. C'est qu'on ne le mérite pas. Sinon, il ne s'agirait pas d'un cadeau, mais d'un dû ou d'un salaire. Parce que Dieu nous aime chacun d'entre nous. D'une manière inestimable, il a fait don de lui-même. L'apôtre Paul décrit ce processus, cette chose dans 2 Corinthiens 5,19. Il dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Dieu n'a pas envoyé un ange, un prophète, un homme politique, ou un ambassadeur. Il est venu lui-même. Il s'est offert lui-même. Ce passage nous révèle que Dieu s'est fait homme pour s'offrir à nous et pour nous sauver. C'est notre troisième point à Noël. C'est Dieu qui vient pour nous sauver. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Nous entendons beaucoup de gens dire, et je pense que vous l'avez déjà expérimenté, « Ah, mais si Dieu existait, si Dieu était si bon, si Dieu était là, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de souffrance. » C'est le problème, c'est que c'est pas Dieu qui est à l'origine des guerres. Alors certes, on utilise souvent son nom pour justifier nos guerres, mais Dieu n'est pas à l'origine de la guerre. C'est pas Dieu qui envoie les bombes, c'est pas Dieu qui bombarde, mais c'est les hommes. L'histoire du monde, vous savez, c'est une histoire de conflit. Durant les 5560 dernières années, il y a eu environ 15 000 guerres. Et il ne s'agit que des guerres que nous connaissons. Et là, je ne parle même pas des guerres qui peuvent se vivre au sein de nos foyers, qui peuvent se vivre dans nos familles, qui peuvent se vivre sur nos lieux de travail. Je ne parle même pas de ces guerres-là. La Bible nous révèle que le mal est entré dans le monde. Lorsque les hommes que Dieu a créés ont désobéi à son commandement. On sait qu'au commencement, Adam et Ève vivaient une vie parfaite dans un monde où le mal n'existait pas, où le mal n'avait pas place. On sait qu'ils étaient en relation, en harmonie avec Dieu. On sait que Dieu se promenait avec eux dans le jardin. Il communiquait avec eux. Et un jour, ils ont décidé de manger ce fruit défendu. Ce fameux fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à ce moment-là, le mal a fait irruption dans la création de Dieu. On sait comment le serpent est venu séduire Ève en lui disant qu'en mangeant de ce fruit, il serait comme Dieu. Vous savez, manger de ce fruit, ça symbolisait le fait pour Adam et Ève de devenir les dieux de leur vie, en déterminant par eux-mêmes ce qui était bon ou mauvais. Et finalement laissant Dieu de côté en l'abandonnant. Manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire je détermine pour ma vie ce que je trouve juste, ce que je trouve bon et ce que je trouve mauvais, sans prêter garde à ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a décidé. Vous savez, à l'image d'Adam et Ève, parce que le mal est entré dans le monde, nous sommes tous enclins par nature à vouloir être les dieux de nos vies, à vouloir être celui qui décide, d'être ceux qui décident pour nos propres vies de ce qui est bon ou mal, de ce que ça c'est bon pour moi, ça c'est mauvais, en laissant Dieu de côté. Vous savez, on est tous orgueilleux, égocentrés. Et ça provoque nécessairement un conflit. Ça provoque nécessairement le mal. Vous savez, si chacun d'entre nous voulons penser le monde à notre manière, nécessairement ça va provoquer des conflits. Car il arrive toujours un moment où ma façon de penser, où ma façon d'agir, ma façon de voir les choses va être en opposition avec celui qui est à côté de moi. Ça va toujours arriver. Proverbe 13, 10 nous dit que c'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Seulement par orgueil. Vous savez, des fois, on trouve toutes sortes d'excuses pour justifier nos colères, pour justifier nos guerres. Mais ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'elle est claire. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. La Bible dit que le cœur de l'homme est enclin à faire le mal. On voit ça dans Jérémie 17, 9. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il n'y a pas une seule personne qui fasse le bien par nature. Vous savez, nous sommes la source de la plupart de nos problèmes. Seul Dieu pouvait nous sauver de nous-mêmes. C'est ce qu'il a fait en se faisant homme. Jésus signifie Dieu sauve. Puisque Dieu est sans péché, puisque Dieu est juste, l'homme pécheur ne peut normalement se tenir dans sa présence. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Romains 3, 23 nous dit « Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, le rachat qui est en Jésus-Christ. Et parce que Dieu est amour, il s'est incarné en Christ. Dans son amour, Dieu s'est fait homme. Et Jésus, qui était sans péché, qui était juste, ce dernier a payé la condamnation que nous méritions tous en mourant à la croix. La bonne nouvelle de l'Évangile, ce n'est pas juste un petit garçon qui est né dans une crèche. Alors c'est sûr, on chante des beaux cantiques qui parlent de ce petit garçon. Mais la mission de Jésus, ce n'était pas faire un beau poupon dans un landau, même si ça nous fait toujours plaisir de voir un bébé. Mais il avait une mission, donner sa vie pour chacun d'entre nous. Donner sa vie pour notre salut, donner aussi sa vie, on l'a entendu, pour guérir nos corps, pour guérir nos cœurs. Sozo s'est délivré. Dieu est venu apporter la délivrance pour notre monde. Amen. Dieu s'est fait homme en Jésus afin que nous puissions recevoir sa paix et être réconciliés avec lui. C'est notre quatrième point. Noël, c'est Dieu qui nous communique la paix. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Les anciennes versions disent aussi parmi les hommes que Dieu agrée, qu'il agrée. Depuis toujours, le plan de Dieu était de sauver les hommes qu'il a créés afin que la paix soit restaurée entre lui et sa création, afin qu'il y ait une véritable réconciliation et que cette paix et cette réconciliation soient vécues au sein de sa création sur cette terre. C'était communiquer la paix, mais aussi pour que cette paix soit vécue entre nous, pour que cette paix soit manifestée. Mais cette paix ne peut être vécue que par l'intervention de Dieu en nous. Parce que nous sommes pécheurs par nature, nous ne pouvons pas vivre cette paix par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas produire la paix dans nos familles. Nous ne pouvons pas produire la paix dans nos foyers. Nous ne pouvons pas produire la paix dans nos nations par nos propres efforts. On nous parle tout le temps de paix, on recherche la paix, nos hommes politiques recherchent la paix, on met toute notre intelligence à trouver des techniques de paix, mais finalement on utilise cette intelligence pour trouver d'autres moyens de faire la guerre. Aujourd'hui on ne parle plus trop de guerre physique, mais on parle de guerre économique. C'est toujours l'un qui prend le pas sur l'autre. C'est toujours une nation qui essaye d'asseoir sa puissance sur l'autre. Rick Warren a fait cette citation, « La réalité, c'est qu'il n'y aura jamais de paix dans le monde tant qu'il n'y aura pas la paix dans les nations. Et il n'y aura jamais la paix dans nos nations tant qu'il n'y aura pas la paix au sein de nos communautés. Et il n'y aura pas la paix au sein de nos communautés tant qu'il n'y aura pas la paix dans nos familles. Et il n'y aura pas la paix dans nos familles tant qu'il n'y aura pas la paix dans nos vies personnelles. Cela n'arrivera pas tant que le prince de la paix ne régnera pas dans nos cœurs. Le prophète Esaïe, parlant de Jésus, parlant d'Emmanuel, l'appelle le prince de la paix. Celui qui règne sur la paix, celui qui seul peut nous communiquer cette paix. L'amour et la paix de Dieu sont basés sur sa personnalité et non sur votre conduite. L'amour et la paix de Dieu, elle est basée sur sa personne et pas sur ce que vous pouvez faire. Éphésiens 2, 8, 9, et vous connaissez ce passage, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La paix ne vient que par la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est cette faveur imméritée, ce cadeau, comme on en a parlé, comme Michel a parlé dans ses chants de Noël, ce cadeau de Dieu. Et cette grâce se saisit par la foi. La foi, c'est le moyen de recevoir la grâce de Dieu. La foi, ce n'est pas le but, c'est le moyen. C'est placer cette confiance. On a entendu parler d'incrédulité ce matin. L'incrédulité, c'est simplement manquer de foi, manquer de confiance dans celui qui est. Jésus nous invite à placer notre confiance. On l'a lu ce matin, Dieu a manifesté sa gloire sur les bergers, sur ceux qui n'étaient pas considérés. La Bible dit aussi que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Je remercie le Seigneur d'être une chose folle, parce qu'il peut manifester sa gloire et sa grâce en nous. Et ce qu'on a besoin, c'est de lui faire confiance. Ce qu'on a besoin, c'est de s'appuyer sur lui. La paix de Dieu ne vient que par la grâce, et cette grâce se saisit par la foi. La foi, c'est croire et faire confiance lorsque Dieu nous dit « n'aie pas peur ». Lorsque Dieu nous dit « n'aie pas peur, j'ai donné ma vie pour toi afin de transformer la tienne. J'ai donné ma vie pour toi afin que ta vie soit changée, transformée. » La grâce, c'est l'amour de Dieu en action. Dieu nous aime et veut nous offrir cette paix. Il veut nous offrir sa paix en cette période de fête. Il veut nous démontrer la valeur que nous avons à ses yeux. Lui qui a été prêt à s'offrir par amour pour toi. Peut-être que tu te sens sans valeur, peut-être que tu te sens indigne. Pourtant, les bras écartés de Jésus à la croix, ses mains percées, crient « Je t'aime, Seigneur ». Vous savez, on n'aime pas dans nos milieux évangéliques les icônes, mais ce que j'aime quand on passe devant les églises traditionnelles où il y a encore le Jésus sur la croix, même si nous on croit qu'il est ressuscité, c'est que quand je regarde à cette image, ses mains écartées, je vois cet amour où Dieu me dit « Je fais ça pour toi ». Ses bras écartés, cloués, le crucifié nous crie « Je t'aime encore ce matin ». Amen. Cette paix que Dieu nous a donné, cette paix que Dieu nous donne encore ce matin. Il veut que nous puissions la transmettre. Il veut que nous puissions la communiquer à ceux qui nous entourent. Cette paix qu'il nous donne, c'est une paix différente de celle des paix éphémères que nos sociétés cherchent à établir tout le temps. Ce n'est pas une paix qui est basée sur des éléments extérieurs, mais c'est une paix qui est basée sur une réalité intérieure. C'est une paix que nous pouvons vivre même lorsque nous traversons des circonstances si difficiles soient-elles. Lorsqu'on a l'impression que tout est instable autour de nous, lorsqu'on a l'impression que tout s'écroule, c'est une paix surnaturelle qui vient se manifester. L'apôtre Paul parle d'une paix qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire une paix qui dépasse notre réflexion humaine. Avec nos yeux, on peut voir toutes sortes de choses autour de nous et notre réflexion nous dit « Oh là là, ça va mal ». Mais il y a une promesse de Dieu, que lorsque nous avons des problèmes, nous devons présenter nos besoins avec prière, avec confiance, avec remerciement, action de grâce. Et il y a cette paix surnaturelle qui se manifeste et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, entre guillemets, qui garde notre confiance en Dieu, qui entretient notre foi. Dieu est fidèle. La paix de Dieu ne se base pas sur des éléments extérieurs, mais c'est une réalité intérieure. Le dernier point ce matin, à après avoir vu que Dieu nous transmet la paix, nous communique sa paix, c'est que nous sommes invités à transmettre cette paix autour de nous. De Corinthiens 5, 18 nous dit « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. » Jacques 3, 18 dans la version NBS, Nouvelle Bible Seconde, nous dit « Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. » Quand on parle d'artisans de paix, ça veut dire que ça nécessite un effort. Un artisan qui travaille le bois, il prend le bois brut, mais il doit le travailler pour en faire quelque chose. Ça ne vient pas tout seul, ça ne tombe pas comme par magie. Alors je sais qu'on parle de la magie de Noël, mais la magie de Noël, c'est faire confiance à Dieu et de se laisser travailler par lui, de laisser nos cœurs se laisser façonner par lui pour traduire en acte ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dieu nous invite à être des artisans de paix, des fabricants de paix, des gens qui travaillent à la paix. Alors que Jésus nous donne, nous communique sa paix, nous voyons que nous sommes appelés à manifester cette paix autour de nous. Nous sommes des ministères, des représentants, des ministres de la réconciliation. Je suis toujours attristé quand je vois des gens s'entre-déchirer, et décidément j'ai du mal ce matin avec ce mot, parce que chacun veut avoir raison. Et chacun veut avoir raison jusqu'au bout. Chacun veut avoir le dernier mot. Il faut que ce soit moi qui termine. Il faut que ce soit moi qui ai le dernier mot. Il faut que ce soit moi qui écrase ma pensée. Il faut que ce soit moi qui communique ce que je crois être vrai et que c'est moi qui dois avoir raison. Des gens s'entre-déchirent pour avoir raison. C'est un jeu de la surenchère et qui vient détruire les relations. Être des ministères de réconciliation, être des artisans de paix, autrement dit être des fabricants de paix, ça nécessite de remettre les bonnes priorités. Les bonnes priorités entre les relations et les résolutions, entre le pardon et la confiance. Il ne faut pas confondre relation et résolution. Et il ne faut pas confondre pardon et confiance. La réconciliation, elle met fin aux hostilités et elle se concentre sur la relation à l'autre. Alors que la résolution, elle se concentre sur le problème. Alors se réconcilier, ça ne nous fait pas de nous des aveugles qui ignorent les problèmes. Mais se réconcilier, c'est travailler d'abord à la relation, afin de discuter du problème sans colère et sans mauvaise attitude. C'est d'abord préférer la relation à la résolution. Ce qui est important, c'est la relation. Combien de personnes sont prêtes à détruire toute leur relation juste parce qu'ils estiment avoir raison ? Où ils estiment avoir la solution et ils sont prêts à se couper de tout leur entourage pour dire j'ai raison. Il y a beaucoup de gens qui ont raison tout seul. Ben, c'est sûr que quand on est face à soi-même, on est forcément, à moins d'avoir un problème, mais généralement on est en accord avec soi-même. Mais Dieu veut nous apprendre à travailler aux relations. Vous savez, on ne peut pas contrôler ce que les autres font, nous font. On ne peut pas contrôler ce que les autres disent de nous, mais nous pouvons choisir comment répondre. Vous savez, la rancœur, l'amertume, c'est comme le cancer. La rancœur et l'amertume, c'est le cancer des émotions. C'est un poison que nous cultivons à l'intérieur de nous. Vous savez, quand on refuse, quand on commence à cultiver de l'amertume sur les gens, en fait, on a plein de choses mauvaises sur ces personnes, mais en fait, eux, ça ne les atteint pas. Par contre, nous, ça nous pourrit la vie. Ça nous détruit. Ça détruit notre journée. Ça détruit parfois aussi nos proches qui sont autour de nous, qui disent « Mais tu ne devrais pas réagir comme ça. » « Mais si, je dois réagir comme ça. Parce qu'il m'a fait ça. Parce que ce n'est pas juste. » Et on est prêt à détruire tous ceux qui sont autour de nous juste en cultivant ces ressentiments à l'intérieur de nous. La rancœur n'affecte pas l'autre, celui qu'on aimerait qu'il soit atteint, mais ça nous détruit. Voilà pourquoi, en tant que croyants, nous devons être des artisans de paix en pardonnant. Le pardon, ça nous libère immédiatement. Vous savez, le pardon, il prend soin du passé. Quand on parle de confiance, ça touche à tout ce qui va concerner le futur. Et cette confiance, on sait qu'elle se gagne avec le temps. Je dis toujours que la confiance, c'est comme marcher sur un lac gelé. C'est comme nos relations, ça peut être comme marcher sur un lac. J'ai envie de parler avec Michel, Je ne sais pas s'il est capable de réceptionner la parole que je vais lui dire, alors je dis un petit truc. J'avance un pas et j'écoute le craquement de la glace. Si ça craque trop fort, j'enlève mon pied. On n'est pas prêt à arriver dans ces schémas-là. La confiance, ça se gagne. C'est en apprenant à connaître l'autre. Et puis on fait un pas et on écoute. On fait un pas, la glace ne craque pas, ça tient sur mon poids, sinon je vais la hausser un peu plus épais. La confiance, ça se gagne avec le temps. La confiance est marquée à tâtons. Alors peut-être qu'on a été victime de quelqu'un ce matin, peut-être vous êtes victime de choses qui ne sont pas justes. Mais vous devez apprendre à pardonner, afin de ne pas être empoisonné par votre amertume. Pardonner, ça ne veut pas dire je vais continuer à subir ce que je subis. Parce que là, on parle de confiance. Si la confiance est détruite, je vais m'éloigner de ceux qui peuvent être un danger pour moi. Mais nous devons pardonner pour nous libérer de ce qu'on a vécu dans le passé. Ma prière ce matin, c'est que ce temps de Noël soit un temps pour offrir le cadeau de la grâce à ceux qui nous entourent, alors que nous sommes en train de célébrer la grâce que Dieu nous a accordée. Noël, on célèbre la grâce que Dieu nous a accordée, mais que nous puissions être des ministères de réconciliation. Peut-être inviter les musiciens, peut-être le pianiste, s'il veut bien revenir. Que nous puissions célébrer la grâce que Dieu nous a accordée. Romains 12, 18, dans la version seconde 21, nous dit « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Comme on l'a dit, on ne peut pas contrôler les autres. Mais Paul nous invite dans ce qui est dans notre sphère d'influence, dans ce qui est dans mes prérogatives, que je sois en paix avec tous. Peut-être qu'il y a des gens qui nous font la guerre et pourtant on n'y peut rien. Mais Paul nous invite, pour ce qui est de notre part, à tout faire pour manifester la paix. Jean 13, 34, 35 nous dit que tous connaîtront que nous sommes les disciples de Jésus si nous manifestons de l'amour pour les autres. Que ce temps de Noël ne soit pas juste un temps de la course à aller vite, à aller acheter la dinde, à se dépêcher pour tout faire, pour réussir une belle soirée. Mais que Noël, ça puisse être lu à travers nos vies. Ma prière pour ma vie, pour votre vie, c'est Seigneur que ma vie soit une lettre ouverte de la paix que tu as manifestée pour moi, de la grâce que tu as manifestée pour moi tant de fois. J'ai galéré tant de fois, j'ai trébuché tant de fois, je me suis détourné de toi, Seigneur. Mais quand ce Noël puisse être un témoin de ta paix, que je puisse manifester la paix, que je puisse être un bâtisseur de la paix. Je ne sais pas si c'est pour vous le défi, Église de l'Épi. Parce qu'on a ce cœur de dire, oui, Seigneur, je veux être un artisan de la paix. Cette paix que tu me donnes, cette grâce, cette gloire que tu as manifestée aux méprisés. Seigneur, donne-nous de vivre ces choses. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Je vais vous dire ce matin, si peut-être vous êtes là pour une première fois, Jésus vous aime. Peut-être si tu ne ressens pas des gens qui disent autour de toi que tu es important, que tu as de la valeur à leurs yeux. Sache que tu as de la valeur dans le regard de Jésus. Vous savez, moi, avant de me convertir, j'essayais d'exister dans le regard des autres. C'est comme ça que je suis tombé dans les troupes d'extrême droite et tout ça, avoir de la haine pour les étrangers, parce que je voulais exister dans un groupe. Je l'ai partagé aux jeunes la semaine dernière, mais je crois que c'est important d'en parler ce matin. Je voulais exister dans le regard des autres. Je voulais avoir de la valeur. Et quand Jésus a manifesté sa gloire, comme il est venu rencontrer les bergers, lorsqu'il m'a donné d'avoir mon diplôme alors que j'avais rien travaillé, que je menais une vie complètement à côté des cours, mais qu'il s'est révélé à moi, lorsque j'ai commencé à ouvrir la parole de Dieu, j'ai ressenti cet amour de Dieu. J'ai ressenti que j'avais plus besoin d'essayer d'exister dans le regard des autres. Parce que j'existais dans le regard de Jésus. Et j'ai vu comment confier ma vie à Jésus, comment il a pris soin de ma vie, comment il a ouvert des portes que je n'imaginais même pas. Combien il m'a donné cet amour, combien il m'a donné aussi une épouse qui m'aime, une épouse avec qui je chemine. Dieu est celui qui prend soin de nous parfaitement. Il est le Dieu de cette paix. Et il nous appelle, il nous qualifie à devenir ses artisans de paix. N'ayons pas peur ce matin de recevoir la paix et de transmettre ce cadeau que Dieu nous a fait. Dieu est fidèle, amen. On peut courber les fronts ce matin. Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu as fait. D'un jour venir dans cette condition humaine, toi qui étais le roi de gloire qui a tout créé, de venir au milieu des mauvaises odeurs, au milieu des animaux, de venir rejoindre ceux qui n'étaient considérés par personne, ceux qui étaient méprisés. Seigneur, tu es venu les rejoindre pour leur ouvrir une porte d'espérance. Merci Seigneur, parce que le message de Noël, c'est un message d'espoir pour chacun. Pour ceux qui vivent en famille, mais peut-être pour ceux qui sont seuls. Nous ne sommes pas seuls parce que tu es avec nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que ta paix vienne envahir les cœurs maintenant. On te prie pour ta réconciliation, Seigneur. Peut-être là où il y a des familles, où il y a du trouble. Saint-Esprit, je te prie pour que cette période de Noël soit une période où ta paix se manifeste au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens manifester ta gloire. Viens manifester cette lumière éclatante au milieu de nous. Seigneur, que nous puissions refléter cette lumière. Tu nous as invités à être la lumière du monde et tu nous dis que cette lumière, elle ne doit pas être cachée. Seigneur, je te prie pour que nous reflétions ta lumière dans ces temps de fête, alors que nous sommes avec nos familles, alors que nous sommes avec nos amis. Seigneur, que par notre intermédiaire, par le fait que nous soyons placés là où tu nous as voulu, nous soyons des communicateurs de ta lumière. Je te prie vraiment, Seigneur, pour que tous puissent vivre ce Noël cette année. Ce Noël en considérant que tu es venu, Seigneur. Que tu es venu communiquer ton salut. Que tu es venu communiquer ta grâce et ta paix. Et faire de nous des transmetteurs de cette paix dans ce monde. Sans toi, la paix est impossible, Jésus. Mais toi, tu es le prince de paix. Le prince de paix qui a décidé d'habiter en chacun d'entre nous. Je te prie vraiment de fortifier et d'encourager ce matin, Père. Au nom de Jésus. Amen.